Chapitre 4e. Quoique nous n'eussions encore jamais visité la lamazerie de Chorchi, nous la connaissions pourtant beaucoup par les renseignements qu'on nous en avait donnés. C'est là qu'avait été élevé le jeune lama qui vint enseigner la langue mongole à M. Gabet et dont la conversion au christianisme donna de si grandes espérances pour la propagation de l'évangile parmi les peuples tartares. Il était âgé de 25 ans quand il sortit de sa lamazerie en 1837. Il y avait passé 14 ans dans l'étude des livres lamaïques et s'était rendu très habile dans les littératures mongoles et mandchoues. Il n'avait encore de la langue tibétaine qu'une connaissance très superficielle. Son maître, vieux lama très instruit et très vénéré, non seulement dans la lamazerie, mais encore dans toute l'étendue de la bannière jaunâtre, avait fondé sur son disciple de grandes espérances. Aussi, ce ne fut qu'à son cœur défendant qu'il consentit à se séparer de lui pour quelque temps. Il ne lui permit qu'un mois d'absence. Au moment de partir, le disciple se prosterna, suivant l'usage, aux pieds de son maître, et le pria de consulter pour lui le livre des oracles. Après avoir lu quelques feuillets d'un livre tibétain, le vieux lama lui adressa ces paroles. « Pendant 14 ans, tu es toujours resté à côté de ton maître comme un fidèle shabi, un disciple. Aujourd'hui, pour la première fois, tu vas t'éloigner de moi. L'avenir me cause une grande tristesse. Souviens-toi donc de revenir à l'époque fixée. Si ton absence se prolonge au-delà d'une lune, ta destinée te condamne à ne jamais remettre le pied dans notre sainte lamazerie. » Le jeune disciple partit, bien résolu de suivre de point en point les instructions de son maître. Dès qu'il fut arrivé dans notre mission de Siwan, M. Gabet prit, pour sujet de ses études mongoles, un résumé historique de la religion chrétienne. Les conférences orales et écrites durèrent près d'un mois. Le jeune lama, subjugué par la force de la vérité, abjura publiquement le bouddhisme, reçut le nom de Paul et fut enfin baptisé après un fervent catéchuménat. La prédiction du vieux lama eut son entier accomplissement. Paul, depuis sa conversion, n'a jamais remis le pied dans la lamazerie dont il était sorti. Environ 2000 lamas habitent la lamazerie de Chorchi, qui est, dit-on, la lamazerie favorite de l'empereur. Il l'a comblée de présents et de privilèges. Les lamas en charge reçoivent tous une pension de la cour de Pékin. Ceux qui s'absentent de la lamazerie avec permission, et pour des raisons approuvées des supérieurs, continuent d'avoir part aux distributions d'argent et de vivres qui se font pendant leur absence. À leur retour, ils reçoivent fidèlement tout ce qui leur revient. On doit sans doute attribuer aux faveurs impériales cet air d'aisance qu'on rencontre partout dans la lamazerie de Chorchi. Les habitations y sont propres, quelquefois même élégantes, et jamais on n'y voit, comme ailleurs, des lamas couverts de sales haillons. L'étude de la langue mandchoue y est très en honneur, preuve incontestable du grand dévouement de la lamazerie pour la dynastie régnante. À part quelques rares exceptions, les largesses impériales entrent pour bien peu de choses dans la construction des lamazeries. Ces monuments grandioses et somptueux, qu'on rencontre si souvent dans le désert, sont dus aux ailes libres et spontanées des Mongols. Si simples et si économes dans leur habillement et dans leurs vivres, ces peuples sont d'une générosité, on peut même dire d'une prodigalité étonnante, dès qu'il s'agit de cultes et de dépenses religieuses. Quand on a résolu de construire quelque part un temple bouddhique entouré de sa lamazerie, les lamas quêteurs se mettent aussitôt en route, munis de passeports qui attestent la légitimité de leur mission. Ils se distribuent les royaumes de la Tartarie et vont de tente en tente demander des aumônes au nom du vieux Bouddha. Aussitôt qu'ils sont arrivés dans une famille et qu'ils ont annoncé le but de leur voyage, en montrant le bassin béni où on dépose les offrandes, ils sont accueillis avec joie et enthousiasme. Dans ces circonstances, il n'est personne qui se dispense de donner. Les riches déposent dans le badir des lingots d'or ou d'argent. Ceux qui ne possèdent pas des métaux précieux, comme ils disent, offrent des bœufs, des chevaux ou des chameaux. Les pauvres même contribuent selon la modicité de leurs ressources. Ils donnent des pains de beurre, des pelleteries, des cordages tressés avec des poils de chameau ou des crins de cheval. Au bout de quelque temps, on a recueilli ainsi des sommes immenses. Alors, dans ces déserts en apparence si pauvres, on voit s'élever comme par enchantement des édifices dont la grandeur et les richesses défieraient les ressources des potentats les plus opulents. C'est sans doute de cette manière, et par le concours empressé de tous les fidèles, qu'on vit autrefois surgir en Europe ces magnifiques cathédrales dont les travaux gigantesques ne cessent d'accuser l'égoïsme et l'indifférence des temps modernes. Les lamazeries qu'on voit en Tartarie sont toutes construites en briques ou en pierre. Les lamas les plus pauvres seulement s'y bâtissent des habitations en terre, mais elles sont toujours si bien blanchies avec de la chaux qu'elles ne contrastent nullement avec les autres demeures. Les temples sont en général édifiés avec assez d'élégance et avec beaucoup de solidité, mais ces monuments paraissent toujours écrasés, ils sont trop bas, eu égard à leurs dimensions. Aux environs de la lamaserie, on voit s'élever, avec profusion et sans ordre, des tours ou des pyramides grêles et élancées, reposant le plus souvent sur des bases larges, et peu en rapport avec les constructions qu'elles supportent. Il serait difficile de dire à quel ordre d'architecture connu peuvent se rattacher les temples bouddhiques de la Tartarie. C'est toujours un bizarre système de baldaquins monstrueux, de péristyles à colonnes torses et d'interminables gradins. À l'opposé de la grande porte d'entrée est une espèce d'autel en bois ou en pierre, affectant ordinairement la forme d'un cône renversé. C'est là-dessus que trônent les idoles. Rarement elles sont debout, on les voit presque toujours assises les jambes croisées. Ces idoles sont de nature colossale, mais leurs figures sont belles et régulières. À part la longueur démesurée des oreilles, elles appartiennent au type caucasien. Elles n'ont rien de ces physionomies monstrueuses et diaboliques des poussas chinois. Sur le devant de la grande idole, et de niveau avec l'autel qu'elle occupe, est un siège doré où se place le faux vivant, grand lama de la lamaserie. Toute l'enceinte du temple est occupée par de longues tables, presque au niveau du sol, espèce de divan placé à droite et à gauche du siège du grand lama et s'étendant d'un bout de la salle à l'autre. Ces divans sont recouverts de tapis, et entre chaque rang il y a un espace vide pour que les lamas puissent librement circuler. Quand l'heure des prières est arrivée, un lama, qui a pour office d'appeler au cœur les hôtes du couvent, va se placer devant la grande porte du temple et souffle de toute la force de ses poumons dans une conque marine en regardant tour à tour les quatre points cardinaux. Le bruit sonore de cet instrument, qui peut aisément se faire entendre à une lieue de distance, va avertir au loin les lamas que la règle les appelle à la prière. Chacun alors prend le manteau et le chapeau des cérémonies et on va se réunir dans la grande cour intérieure. Quand le moment est arrivé, la conque marine résonne pour la troisième fois, la grande porte s'ouvre et le faux vivant fait son entrée dans le temple. Après qu'il s'est assis sur l'autel, tous les lamas déposent au vestibule leurs bottes rouges et avancent pieds nus et en silence. À mesure qu'ils entrent, ils adorent le faux vivant par trois prostrations, puis ils vont se placer sur le divan, chacun en rang de sa dignité. Ils sont assis les jambes croisées, toujours tournées en cœur, c'est-à-dire face à face. Aussitôt que le maître des cérémonies a donné le signal, en agitant une clochette, chacun murmure à voix basse comme des actes préparatoires, tout en déroulant sur les genoux le formulaire des prières marquées par la rubrique. Après une courte récitation, vient un instant de profond silence. La cloche s'agite de nouveau, et alors commence une psalmodie à deux chœurs, sur un ton grave et mélodieux. Les prières tibétaines, ordinairement coupées par versets, et écrites en style métrique et cadencé, se prête merveilleusement à l'harmonie. Quelquefois, à de certains repos fixés par la rubrique, les lamas musiciens exécutent une musique qui est peu en rapport avec la mélodieuse gravité de la psalmodie. C'est un bruit confus et étourdissant de cloches, de cymbales, de tambourins, de conques marines, de trompettes, de sifflets, etc. Chaque musicien joue de son instrument avec une espèce de furie. C'est à qui produira le plus de bruit et le plus de désordre. L'intérieur du temple est ordinairement encombré d'ornements, de statuettes et de tableaux ayant rapport à la vie de Bouddha et aux diverses transmigrations des lamas les plus fameux. Des vases en cuivre, brillants comme de l'or, de la grosseur et de la forme des tasses à thé, sont placés en grand nombre sur plusieurs degrés en amphithéâtre devant les idoles. C'est dans ces vases qu'on fait de perpétuelles offrandes de lait, de beurre, de vin mongol et de petits millets. Les extrémités de chaque gradin sont terminées par des cassolettes où brûlent incessamment les plantes aromatiques recueillies sur les montagnes saintes du Tibet. De riches étoffes en soie, chargées de clinquants et de broderies d'or, forment sur la tête des idoles comme de grands pavillons d'où pendent des banderoles et des lanternes en papier peint ou en corne fondue. Les lamas sont les seuls artistes mis à contribution pour les ornements et le décor des temples. Les peintures sont répandues partout, mais elles sont presque toujours en dehors du goût et des principes généralement admis en Europe. Le bizarre et le grotesque y dominent, et les personnages, à l'exception des Bouddhas, ont le plus souvent un aspect monstrueux et satanique. Les habits ne semblent jamais avoir été faits pour les individus qui en sont affublés. on dirait que les membres cachés sous ses draperies sont cassés et disloqués. Au milieu de toutes ces peintures lamaïques, on rencontre pourtant quelquefois des morceaux qui ne sont pas dépourvus de beauté. Un jour que nous visitions, dans le royaume de Geshekten, la grande lamazerie appelée Temple d'Or, Altan Somné, nous remarquâmes un tableau qui nous frappa d'étonnement. C'était une grande toile, au centre de laquelle on avait représenté Bouddha assis sur un riche tapis. Autour de cette image, de grandeur naturelle, était comme une auréole de portraits en miniature exprimant allégoriquement les 1000 vertus de Bouddha. Nous ne pouvions nous lasser d'admirer ce tableau, remarquable non seulement par la pureté et la grâce du dessin, mais encore par l'expression des figures et la richesse du coloris. On eût dit que tous ces personnages étaient pleins de vie. Nous demandâmes à un vieux lama qui nous accompagnait des renseignements sur cette admirable pièce de peinture. « Ce tableau, nous répondit-il, en portant ses deux mains jointes au front, ce tableau est un trésor de la plus haute antiquité. Il renferme toute la doctrine de Bouddha. Ce n'est pas une peinture mongole, elle vient du Tibet. Elle a été composée par un saint de l'éternel sanctuaire. » Les paysages sont en général mieux rendus que les sujets dramatiques. Les fleurs, les oiseaux, les arbres, les animaux mythologiques, tout cela est exprimé avec vérité et de manière à plaire aux yeux. Les couleurs sont surtout d'une vivacité et d'une fraîcheur étonnantes. Il est seulement dommage que les peintres paysagistes n'aient qu'une faible connaissance de la perspective et du clair-obscur. Les lamas sont de beaucoup meilleurs sculpteurs que peintres. Aussi ne ménagent-ils pas les sculptures dans leurs temples bouddhiques. Elles y sont répandues quelquefois avec profusion, qui peut, il est vrai, attester la fécondité de leurs ciseaux, mais qui ne fait pas l'éloge de leur bon goût. D'abord, tout autour du temple, ce sont des tigres, des lions et des éléphants accroupis sur des blocs de granit. Les grandes rampes en pierre bordant les degrés qui conduisent à la grande porte d'entrée sont presque toujours taillées, ciselées et ornées de 1000 figurines bizarres, représentant des oiseaux, des reptiles ou d'autres animaux imaginaires. Dans l'intérieur du temple, on ne voit de tous côtés que reliefs, tantôt en bois, tantôt en pierre, mais toujours exécutés avec une hardiesse et une vérité admirables. Quoique les lamaseries mongoles ne puissent être comparées, pour la grandeur et les richesses, à celles du Tibet, il en est quelques-unes qui sont très célèbres et très renommées parmi les adorateurs de Bouddha. La plus fameuse de toutes est celle du Grand Kuren, dans le pays des Khalkhas. Comme nous avons eu occasion de la visiter durant le cours d'un de nos voyages dans le nord de la Tartarie, nous entrerons ici dans quelques détails. La lamaserie du Grand Kuren est bâtie sur les bords de la rivière Toula. C'est là que commence une immense forêt qui s'étend au nord jusqu'aux frontières russes, l'espace de 6 ou 7 journées de marche. Vers l'Orient, elle compte, dit-on, près de 200 lieues d'étendue jusqu'au pays des Solons dans la Mandchourie. Avant d'arriver au Grand Kuren, il faut cheminer pendant un mois entier à travers les plaines immenses, stériles et semblables à un océan de sable. Ce grand désert de Gobi a continuellement un aspect mélancolique et triste. Jamais un ruisseau, jamais même une petite source d'eau pour animer cette solitude. Jamais un arbre qui en interrompe la monotonie. Aussitôt qu'on est arrivé sur la cime des monts Kugur, qui bornent à l'occident les états du Gizontamba, la nature change complètement de face. De toutes parts, ce sont des vallons pittoresques et animés, des montagnes rangées en amphithéâtre et couronnées de forêts aussi anciennes que le monde. Le fond d'une grande vallée sert de lit au fleuve Toula, qui, ayant pris sa source dans les monts Barka, coule longtemps d'Orient en Occident, arrose les plaines où paissent les troupeaux de la lamazerie, puis, après avoir fait un coude au-dessus de Kuren, va s'enfoncer dans la Sibérie et se perdre enfin dans le lac Baïkal. La lamaserie est bâtie au nord du fleuve, sur les vastes flancs d'une montagne. Les divers temples où demeurent le Gizontamba et plusieurs autres grands lamas se font remarquer par leur élévation et par les tuiles dorées dont ils sont recouverts. 30 000 lamas vivent habituellement dans cette grande lamaserie ou dans celle des environs, qui en sont comme les succursales. Au bas de la montagne, la plaine est incessamment couverte de pavillons de grandeurs différentes, où séjournent les pèlerins jusqu'à ce que leur dévotion soit satisfaite. C'est là que se rendent pêle-mêle tous les adorateurs de Bouddha venus des contrées les plus éloignées. Les Upitadze ou Tartares aux peaux de poisson y plantent leur tente à côté des Torgotes descendus du sommet des saintes montagnes Bokteula. Les Tibétains et les Pébums des Himalayas, cheminant lentement avec leur longue procession de Sarligues ou bœufs à longs poils, vont se confondre avec les mandchous des bords du Songari et de l'Amour qui arrivent portés sur des traîneaux. C'est un mouvement continuel de pavillons qui se tendent ou se ploient. Ce sont des multitudes de pèlerins qui arrivent ou qui partent sur des chameaux, des bœufs, des sarligues, des voitures, des traîneaux, à pied, à cheval, en mille bizarres équipages. Vu de loin, les blanches cellules des lamas, bâties en lignes horizontales, au-dessus les unes des autres sur le penchant de la montagne, ressemblent au degré d'un hôtel grandiose dont le tabernacle serait le temple du Gizontamba. Du fond de ce sanctuaire, dont les dorures et les vives couleurs resplendissent de toutes parts, le lamarois reçoit les hommages perpétuels de cette foule d'adorateurs incessamment prosternés devant lui. Dans le pays, il est appelé le saint par excellence, et il n'est pas un seul tartare kalka qui ne se fasse honneur de se dire son disciple. Quand on rencontre un habitant du Grand Kouren, si on lui demande d'où il est, « Kure Bokte Ain Chabi » répond-il avec fierté, « je suis disciple du saint Kouren. » À une demi-lieue de la lamazerie, et non loin des bords du fleuve Tula, se trouve une grande station de commerçants chinois. Leurs maisons de bois ou de terre sont toujours entourées de palissades en pieux pour se garantir des voleurs, car les pèlerins, malgré toute leur dévotion, ne se font pas faute de piller sans scrupule le bien d'autrui. Une montre et quelques lingots d'argent volés pendant la nuit dans la tente de M. Gabet ne nous ont pas permis de croire sans restriction à la probité des disciples du saint. Le commerce du Grand Kouren est très florissant. Les marchandises russes et chinoises y abondent. Dans les opérations commerciales, les paiements s'effectuent toujours avec des thés en briques. Qu'on vende un cheval, un chameau, une maison ou des marchandises de quelque nature que ce soit, la convention du prix se fait en thé. 5 thés représentent une valeur d'une once d'argent. Ainsi, le système monétaire, qui répugnait si fort aux idées de Franklin, n'est nullement en usage parmi les Tartares du Nord. La cour de Pékin entretient au Grand Kouren quelques mandarins, sous prétexte de maintenir le bon ordre parmi les Chinois qui résident dans ce pays. Mais en réalité, c'est pour surveiller le Gizontamba, dont la puissance ne cesse de donner de l'ombrage à l'empereur de la Chine. Le gouverneur de Pékin n'a pas oublié que le fameux Tchingis Khan est sorti de la tribu des Khalkhas et que le souvenir de ses conquêtes ne s'est pas encore effacé de la mémoire de ses peuples belliqueux. Aussi, le moindre mouvement qui s'opère au Grand Kouren ne manque pas d'aller donner l'alarme à l'empereur de Chine. Dans l'année 1839, le Gizontamba descendit à Pékin pour rendre visite à l'empereur Tao Kuan. Aussitôt qu'en Chine on eut bruit de son dessein, la terreur s'empara de la cour et le nom du grand lama des Khalkhas fit pâlir l'empereur dans le fond de son palais. Des négociateurs furent envoyés pour tâcher de détourner le Gizontamba de ce voyage, ou du moins pour arranger les choses de manière à ne pas compromettre la sûreté de l'empire. On ne vint pas à bout de changer la résolution du lamarois, mais on régla qu'il n'aurait qu'une suite de 3000 lamas et qu'il viendrait sans être accompagné des 3 autres souverains Khalkhas qui s'étaient proposés de le suivre jusqu'à Pékin. Aussitôt que le Gizontamba se mit en marche, toutes les tribus de la Tartarie s'ébranlèrent et on vit accourir de toutes parts sur son passage des foules innombrables. Chaque tribu arrivait avec ses offrandes, des troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons, des lingots d'or et d'argent et des pierres précieuses. On avait creusé des puits de distance en distance dans toute la traversée du grand désert de Gobi, et les rois des divers pays par où le cortège devait passer avaient disposé longtemps d'avance des provisions dans tous les endroits fixés pour les campements. Le lamarois était dans un palanquin jaune, porté par 4 chevaux que conduisaient 4 grands dignitaires de la lamazerie. Les 3000 lamas du cortège précédaient ou suivaient le palanquin, montés sur des chevaux ou sur des chameaux, courant sans ordre dans tous les sens et s'abandonnant à leur enthousiasme. Les 2 côtés du passage étaient bordés de spectateurs, ou plutôt d'adorateurs, qui attendaient avec impatience l'arrivée du saint. Quand le palanquin paraissait, tous tombaient à genoux, puis s'étendaient tout de leur long, le front touchant la terre et les mains jointes par-dessus la tête. On eût dit le passage d'une divinité qui daigne traverser la terre pour verser ses bénédictions sur les peuples. Le Gizontamba continua ainsi sa marche pompeuse et triomphale jusqu'à la grande muraille. Là, il cessa d'être Dieu pour n'être plus que le prince de quelques tribus nomades, méprisé des Chinois, objet de leurs sarcasmes et de leurs moqueries, mais redouté par la cour de Pékin, à cause de la terrible influence qu'elle pourrait exercer sur les destinées de l'Empire. Il ne fut permis qu'à une moitié de la suite de passer la frontière. Tout le reste fut forcé de camper au nord de la Grande Muraille, dans les plaines du Tchakar. Le Gizon Tamba séjourna à Pékin pendant 3 mois, voyant l'empereur de temps en temps et recevant les adorations un peu suspectes des princes mandchous et des grands dignitaires de l'Empire. Enfin, il délivra le gouvernement chinois de sa présence importune. Et après avoir visité les lamaseries des 5 tours et de la ville bleue, il reprit la route de ses états, mais il ne lui fut pas donné d'y arriver. Il mourut en chemin, victime, disent les Mongols, de la barbarie de l'empereur, qui lui fit administrer à Pékin un poison lent. Cette mort a ulcéré les Tartares Khalkhas, sans trop les consterner, car ils sont persuadés que leur Gizon Tamba ne meurt jamais réellement. Il ne fait que transmigrer dans un autre pays pour revenir ensuite plus jeune, plus frais et plus dispos. En 1844, ils ont appris en effet que leur Bouddha vivant s'était incarné dans le Tibet, et ils ont allé chercher solennellement cet enfant de 5 ans pour le replacer sur son trône impérissable. Pendant que nous étions campés dans le Koukou Nord, sur les bords de la mer Bleue, nous vîmes passer la grande caravane des Khalkhas qui allait inviter à Lhasa le lama roi du Grand Kuren. Le Kuren des 1000 lamas, Mingan Lama Nekure, est aussi une lamaserie célèbre qui date de l'envahissement de la Chine par les Mandchous. Quand Chunche, fondateur de la dynastie actuellement régnante en Chine, descendait des forêts de la Mandchourie pour marcher sur Pékin, il rencontra sur sa route un lama du Tibet qu'il consulta sur l'issue de son entreprise. Le lama lui promit plein succès. Chunche lui dit alors de le venir trouver quand il serait à Pékin. Après que les Mandchous se furent rendus maîtres de la capitale de l'Empire, le lama tibétain ne manqua pas de se trouver au rendez-vous. L'empereur reconnut celui qui lui avait tiré un bon horoscope, et pour lui en témoigner sa reconnaissance, il lui alloua une vaste étendue de terrain pour construire une lamaserie et des revenus pour l'entretien de 1000 lamas. Depuis cette époque, la lamaserie des 1000 lamas a pris du développement et aujourd'hui elle en compte plus de 4000. Pourtant, elle a toujours conservé le même nom. Peu à peu, les commerçants s'y sont transportés et ont formé aux environs une assez grande ville, habitée conjointement par les Chinois et les Tartares. Le principal commerce de l'endroit consiste en bestiaux. Le grand lama de la lamaserie est en même temps souverain du pays. C'est lui qui rend la justice, fait les lois et crée les magistrats. Quand il est mort, on va, comme de juste, le chercher dans le Tibet, où il ne manque jamais de se métempsycoser. Quand nous visitâmes le Kuren des 1000 lamas, tout était sens dessus-dessous à cause d'un procès qui s'était élevé entre le lama roi et ses 4 ministres, appelés en langue mongole « Jasak ». Ces derniers s'étaient émancipés au point de se marier et de se bâtir des maisons particulières loin de la lamaserie, toute chose contraire aux règles lamaïques. Le grand lama avait voulu les rappeler à l'ordre, mais ces 4 Jasak avaient amassé contre lui une multitude de griefs et l'avaient accusé à Geo-Eul auprès du Hutun, grand mandarin mandchou, qui peut connaître de toutes les affaires tartares. Le procès durait depuis 2 mois, quand nous passâmes à la lamaserie, et nous vîmes bientôt qu'elle se ressentait de l'absence de ses chefs. Prière et études, tout était en vacances. La grande porte de la cour extérieure était ouverte et paraissait n'avoir pas été fermée depuis longtemps. Nous entrâmes dans l'intérieur et nous ne trouvâmes qu'une morne solitude. L'herbe croissait de toutes parts dans les cours et sur les parois. Les portes des temples étaient cadenassées. Mais à travers le jour des battants, on pouvait voir que les autels, les sièges des lamas, les peintures, les statues, tout était couvert d'une épaisse poussière. Tout attestait que la lamaserie était depuis longtemps en chômage. L'absence des supérieurs, jointe à l'incertitude de l'issue du procès, avait relâché tous les liens de la discipline. Les lamas s'étaient dispersés et on commençait à regarder l'existence même de la lamaserie comme extrêmement compromise. Depuis, nous apprîmes que le procès, grâce à d'énormes sommes d'argent, s'était terminé à l'avantage du lama roi et que les 4 Jasak avaient été contraints de se conformer en tout aux ordres de leur souverain. On peut encore mettre au nombre des lamaseries célèbres celle de la ville bleue, de Tolon Nord, de Goe-Eul, et en dedans de la Grande Muraille, celle de Pékin et celle des 5 tours dans le Shaanxi. Après avoir quitté la lamaserie de Chorchi, comme nous entrions dans la bannière rouge, nous rencontrâmes un chasseur mongol qui portait sur son cheval un magnifique chevreuil fraîchement tué. nous en étions réduits depuis si longtemps à notre insipide farine d'avoine, assaisonnée de quelques morceaux de suif, que la vue de cette venaison nous donna quelque envie de varier un peu notre nourriture. Nous sentions d'ailleurs que notre estomac, affaibli par des privations journalières, réclamait impérieusement une alimentation plus substantielle. Après avoir donc salué le chasseur, nous lui demandâmes s'il serait disposé à nous vendre son chevreuil. « Seigneur Lama, nous répondit-il, quand j'étais me mettre en embuscade pour attendre les chevreuils, je n'avais dans mon cœur aucune pensée de commerce. Les voituriers chinois qui stationnent là-haut au-dessus de Tchurchi ont voulu acheter ma chasse pour 400 sapèques. Je leur ai dit non. « Seigneur Lama, je ne puis pas vous parler comme à des quittates. Voilà mon chevreuil, prenez-le à discrétion. » Nous dîmes à Samda Chiemba de compter 500 sapèques au chasseur, et après avoir suspendu la bête au cou d'un chameau, nous continuâmes notre route. 500 sapèques équivalent à peu près à 50 sous de France. C'est le prix ordinaire d'un chevreuil. Un mouton coûte 3 fois plus cher. La venaison est peu estimée des Tartares, et encore moins des Chinois. La viande noire, disent-ils, ne vaut jamais la blanche. Pourtant, dans les grandes villes de Chine, et surtout à Pékin, la viande noire paraît avec honneur sur la table des riches et des mandarins, mais c'est à cause de sa rareté et pour rompre la monotonie des mets ordinaires. Cette observation ne regarde pas les Mandchous. Grands amateurs de la chasse, ils sont en général très friands de toute espèce de venaison, et surtout de la viande d'ours, de cerf et de faisan. Il n'était guère plus de midi lorsque nous rencontrâmes un site d'une merveilleuse beauté. Après être passé par une étroite ouverture, pratiquée entre deux rochers dont le sommet se perdait dans les nues, nous nous trouvâmes dans une vaste enceinte, tout entourée de hautes montagnes, où croissaient çà et là quelques vieux pins. Une fontaine abondante donnait naissance à un petit ruisseau bordé d'angéliques et de menthe sauvage. Ces eaux faisaient le tour de cette enceinte, parmi de grandes herbes, et s'échappaient à travers une ouverture semblable à celle par où nous étions entrés. Aussitôt que nous eûmes parcouru d'un regard les attrayantes beautés de ce site, Samda Chiemba nous présenta une motion pour y dresser immédiatement la tente. « N'allons pas plus loin, nous dit-il. Campons ici, s'il vous plaît. Nous avons peu marché, il est vrai. Le soleil est encore haut. Mais aujourd'hui, il faut camper de bonne heure. Nous avons à travailler ce chevreuil. » Personne n'ayant eu rien à opposer au discours du préopinant, sa proposition fut adoptée à l'unanimité et nous allâmes dresser notre tente sur les bords de la fontaine. Samda Chiemba nous avait souvent parlé de sa dextérité de boucher. Aussi était-il ivre de joie. Il brûlait de nous montrer son savoir-faire. Après avoir suspendu le chevreuil à une grosse branche de pin, aiguisé son couteau sur un clou de la tente et retroussé ses mains jusqu'au coude, il nous demanda si nous voulions dépecer le chevreuil à la turque, à la chinoise ou à la tartare. N'ayant aucune raison suffisante pour préférer une manière plutôt qu'une autre, nous laissâmes à Samda Chiemba la liberté de suivre l'impulsion de son génie. Dans un instant, il eut écorché et vidé l'animal, puis il détacha les chairs tout d'une pièce, sans séparer les membres, ne laissant suspendu à l'arbre qu'un squelette avec ses os parfaitement nettoyés. C'était la méthode turque. On en eut souvent dans les longs voyages, afin de ne pas se charger du transport inutile des ossements. Aussitôt que l'opération fut terminée, Samda Chiemba détacha quelques tranches de notre grande pièce de venaison et les mit frire dans de la vieille graisse de mouton. Cette manière de préparer du chevreuil n'était peut-être pas très conforme aux règles de l'art culinaire, mais la difficulté des circonstances ne nous permettait pas de mieux faire. Notre gala fut bientôt prêt, mais contre notre attente, nous ne pûmes avoir la satisfaction d'être les premiers à en goûter. Déjà, nous étions assis en triangle sur le gazon, ayant au milieu de nous le couvercle de la marmite qui nous servait de plat, lorsque tout à coup, voilà que nous entendons comme un ouragan fondre du haut des airs sur nos têtes. Un grand aigle tombe comme un trait sur notre souper et se relève avec la même rapidité, emportant dans ses serres quelques tranches de chevreuil. Quand nous fûmes revenus de notre épouvante, nous n'eûmes rien de mieux à faire que de rire de l'aventure. Pourtant Samda Chiemba ne riait pas. Il avait la rage au cœur, et non pas à cause du chevreuil escamoté, mais parce que l'aigle en partant l'avait insolemment souffleté du bout de son aile. Cet événement servit à nous rendre plus précautionneux les jours suivants. Durant notre voyage, nous avions plus d'une fois remarqué des aigles planer sur nos têtes et nous espionner à l'heure des repas. Cependant, aucun accident n'avait encore eu lieu. Jamais notre farine d'avoine n'avait tenté la gloutonnerie de l'oiseau royal. On rencontre l'aigle presque partout dans les déserts de la Tartarie. On le voit tantôt se balançant et faisant la ronde dans les airs, tantôt posé sur quelque tertre au milieu de la plaine, y rester longtemps immobile comme une sentinelle. Personne ne lui fait la chasse. Il peut faire son nid, élever ses aiglons, croître et vieillir sans être jamais tourmenté par les hommes. Souvent on en rencontre qui, posés à terre, paraissent plus gros qu'un mouton ordinaire. Quand on s'approche d'eux, avant de pouvoir se lancer dans les airs, ils sont obligés de faire d'abord une longue course en battant des ailes. Après quoi, parvenant à abandonner un peu le sol, ils s'élèvent à volonté dans l'espace. Après quelques jours de marche, nous quittâmes le pays des huit bannières pour entrer dans le Toumet occidental. Lors de la conquête de la Chine par les Mandchous, le roi de Toumet s'étant distingué dans l'expédition comme auxiliaire, le vainqueur, pour lui témoigner sa reconnaissance des services qu'il en avait reçus, lui donna les belles contrées situées au nord de Pékin, en dehors de la Grande Muraille. Depuis cette époque, elle porte le nom de Toumet oriental et l'ancien Toumet a pris celui de Toumet occidental. Ils sont séparés l'un de l'autre par le Tchakar. Les Tartares mongols du Toumet occidental ne mènent pas la vie de pastorale et nomade. Ils cultivent leurs terres et s'adonnent à tous les arts des peuples civilisés. Il y avait déjà près d'un mois que nous marchions à travers le désert, dressant au premier endroit venu notre tente d'un jour, accoutumés à ne voir au-dessus de nos têtes que le ciel et sous nos pieds et autour de nous que d'interminables prairies. Il y avait déjà longtemps que nous avions comme rompu avec le monde, car de loin en loin seulement nous apercevions quelques cavaliers tartares qui traversaient rapidement la terre des herbes, semblables à des oiseaux de passage. Sans nous en douter, nos goûts s'étaient insensiblement modifiés, et le désert de la Mongolie nous avait fait un tempérament ami de la paix et de la solitude. Aussi, dès que nous fûmes dans les terres cultivées, au milieu des agitations, des embarras et du tumulte, nous nous sentîmes comme opprimés et suffoqués par la civilisation. L'air nous manquait, et il nous semblait à chaque instant que nous allions mourir asphyxiés. Cette impression pourtant ne fut que passagère. Au bout du compte, nous trouvâmes bien plus commode et bien plus agréable, après une journée de marche, d'aller loger dans une auberge bien chaude et bien approvisionnée, que d'être obligé de dresser une tente, d'aller ramasser des bouses et de préparer nous-mêmes notre pauvre nourriture avant de pouvoir prendre un peu de repos. Les habitants du Toumet occidental, comme bien on peut se l'imaginer, ont complètement perdu l'originalité du caractère mongol. Ils se sont tous plus ou moins chinoisés, et on en rencontre beaucoup parmi eux qui n'entendent pas un mot de la langue mongole. Il en est même qui laissent parfois percer un peu de mépris pour leurs frères du désert qui n'ont pas encore livré leurs prairies au soc de la charrue. Ils les trouvent bien ridicules de mener une vie perpétuellement errante et de loger sous de misérables tentes, tandis qu'il leur serait si aisé de se bâtir des maisons et de demander des richesses et des jouissances à la terre qu'ils occupent. Au reste, ils ont quelques raisons de préférer le métier de laboureur à celui de berger, car ils habitent des plaines magnifiques, très bien arrosées, d'une admirable fécondité et favorable à la culture de toute espèce de céréales. Quand nous traversâmes ce pays, la moisson était déjà faite, mais en voyant de tous côtés les aires couvertes de grands amas de gerbes, on pouvait juger que la récolte avait été riche et abondante. Tout d'ailleurs dans le Toumet porte l'empreinte d'une grande aisance. Nulle part sur la route on ne rencontre, comme en Chine, de ces habitations délabrées et semblables à des ruines. On n'y voit jamais, comme ailleurs, de ces malheureux exténués de misère et à moitié recouverts de quelques haillons. Tous les paysans sont complètement et proprement vêtus, mais leur aisance se manifeste surtout dans les arbres magnifiques qui entourent les villages et bordent les chemins. Les autres pays tartares, cultivés par les Chinois, n'ont jamais un aspect semblable. Les arbres ne peuvent y vieillir. On n'essaie même pas d'en planter, car on est assuré qu'ils seraient arrachés le lendemain pour des malheureux qui s'en feraient du bois de chauffage. Nous avions fait trois journées de marche dans les terres cultivées du Toumet, lorsque nous entrâmes dans Kukuot, la ville bleue, appelée en chinois Kui Oachen. Il y a deux villes du même nom à 5 lis de distance l'une de l'autre. On les distingue en les nommant l'une ville vieille et l'autre ville neuve, ou bien encore ville commerciale et ville militaire. Nous entrâmes d'abord dans cette dernière, qui fut bâti par l'empereur Kang He pour protéger l'Empire contre les ennemis du Nord. La ville a un aspect beau, grandiose et qui sera même admiré en Europe. Nous entendons seulement parler de son enceinte de murailles crénelées, construite en briques, car au-dedans, les maisons basses, et en style chinois, ne sont nullement en rapport avec les hauts et larges remparts qui les entourent. L'intérieur de la ville n'a de remarquable que sa régularité et une grande et belle rue qui la perce d'Orient en Occident. Un Kyonkyun, ou commandant de division militaire, y fait sa résidence avec 10 000 soldats qui tous les jours sont obligés de faire l'exercice. Ainsi, cette ville peut être considérée comme une grande caserne. Les soldats de la ville neuve de Kukuot sont tartares mandchous. Mais si par avance on ne le savait pas, on ne le soupçonnerait guère en les entendant parler. Parmi eux, il n'en existe peut-être pas un seul qui soit capable de comprendre la langue de son pays. Déjà 2 siècles se sont écoulés depuis que les Mandchous se sont rendus maîtres du vaste empire chinois, et on dirait que pendant ces 2 siècles, ils ont incessamment travaillé à se détruire eux-mêmes. Leurs mœurs, leur langue, leur pays même, tout est devenu chinois. Aujourd'hui, on peut assurer que la nationalité mandchoue est anéantie sans ressources. Pour se rendre compte de cette étrange contre-révolution et comprendre comment les Chinois ont pu s'assimiler leurs vainqueurs et s'emparer de la Mandchourie, il faut reprendre les choses de plus haut et entrer dans quelques détails. Du temps de la dynastie des Ming, les Mandchous ou Tartares orientaux, après s'être fait longtemps la guerre entre eux, se choisirent un chef qui réunit toutes les tribus pour en faire un royaume. Dès lors, ces peuples farouches et barbares acquirent insensiblement une importance capable de donner de l'ombrage à la cour de Pékin. En 1618, leur puissance était si bien établie que leur chef ne craignit pas de signaler à l'empereur chinois 7 griefs dont il avait, disait-il, à se venger. Ce hardi manifeste finissait ainsi. « Pour venger ces 7 injures, je vais réduire et subjuguer la dynastie des Ming. » Bientôt, l'empire fut bouleversé par de nombreuses révoltes. Le chef des rebelles assiège Pékin et s'en empare. Alors l'empereur, désespérant de sa fortune, va se pendre à un arbre du jardin impérial après avoir écrit ces mots avec son propre sang. Puisque l'empire succombe, il faut que le prince meure aussi. Hu Sun-kui, général des troupes chinoises, appelle les Mandchous à son secours pour l'aider à réduire les rebelles. Ceux-ci sont mis en fuite et pendant que le général chinois les poursuit dans le midi, le chef tartare revient à Pékin. Ayant trouvé le trône vacant, il s'y assit. Avant cet événement, la grande muraille, soigneusement gardée par la dynastie des Ming, défendait aux Mandchous d'entrer en Chine. Réciproquement, l'entrée de la Mandchou était interdite aux Chinois. Mais après la conquête de l'Empire, il n'y eut plus de frontière qui sépara les deux peuples. La grande muraille fut franchie et la circulation d'un pays à l'autre, une fois laissée libre, les populations chinoises du Pechili et du Changtung, resserrées dans leurs étroites provinces, se répandirent comme un torrent dans la Mandchourie. Le chef tartare était considéré comme seul maître, seul possesseur des terres de son royaume. Mais devenu empereur de Chine, il a distribué aux Mandchous ses vastes possessions sous condition qu'on lui paierait annuellement de fortes redevances. À force d'usure, d'astuce et de persévérance, les Chinois ont fini par se rendre les maîtres de toutes les terres de leurs vainqueurs et ne leur ont laissé que leurs titres, leurs corvées et leurs redevances. La qualité de Mandchou est ainsi devenue insensiblement un poids onéreux que beaucoup ont cherché à secouer. D'après une loi, on doit faire, tous les 3 ans, un recensement dans chaque bannière. Ceux qui ne se présentent pas pour faire inscrire leur nom sur les rôles sont censés ne plus appartenir à la nation mandchoue. Or, tous ceux que l'indigence fait soupirer après l'exemption des corvées et du service militaire, ne se présentant pas au recensement, entrent par ce seul fait dans les rangs du peuple chinois. Ainsi, à mesure que les migrations ont fait passer par-delà la grande muraille un grand nombre de Chinois, beaucoup de Mandchous ont abdiqué volontairement leur nationalité. La déchéance, ou plutôt l'extinction de la nation Mandchoue, marche aujourd'hui plus rapidement que jamais. Jusqu'au règne des Tao Kuan, les contrées baignées par le Songari avaient été exclusivement habitées par les Mandchous. L'entrée de ces vastes pays avait été interdite aux Chinois, et défense faite à qui que ce fût d'y cultiver les terres. Dès les premières années du règne actuel, on mit ces contrées en vente pour suppléer à l'indigence du trésor public. Les Chinois s'y sont précipités comme des oiseaux de proie et quelques années ont suffi pour en faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de leurs anciens possesseurs. Maintenant, on chercherait vainement dans la Mandchourie une seule ville ou un seul village qui ne soit exclusivement composé de Chinois. Cependant, au milieu de cette transformation générale, il est encore quelques tribus, les Sipo et les Solon, qui ont conservé fidèlement leur type mandchou. Jusqu'à ce jour, leur territoire n'a été ni envahi par les Chinois, ni livré à la culture. Elles continuent d'habiter sous des tentes et de fournir des soldats aux armées impériales. On a remarqué pourtant que leurs fréquentes apparitions à Pékin et quelquefois leurs longs séjours dans les garnisons des provinces commençaient à donner de terribles atteintes à leur goût et à leurs usages. Quand les Mandchous ont eu conquis la Chine, ils ont en quelque sorte imposé aux vaincus une partie de leurs coutumes et quelques usages. Mais les Chinois ont fait plus que cela. Ils ont su forcer leurs conquérants à adopter leurs mœurs et leur langage. Maintenant, on a beau parcourir la Mandchourie jusqu'au fleuve Amour, c'est tout comme si on voyageait dans quelques provinces de Chine. La couleur locale s'est complètement effacée. À part quelques peuples nomades, personne ne parle le mandchou. Il ne resterait peut-être plus aucune trace de cette belle langue si les empereurs Kanri et Qianlong ne lui avaient élevé des monuments impérissables et qui fixeront toujours l'attention des orientalistes d'Europe. Autrefois, les Mandchous n'avaient pas d'écriture particulière. Ce fut seulement en 1624 que Taitsu Kou Hongti, chef des Tartares orientaux, chargea plusieurs savants de sa nation de dessiner des lettres d'après celles des Mongols. Plus tard, en 1641, un lettré plein de génie, nommé Tahai, perfectionna ce premier travail et donna à l'écriture mandchoue tout le degré de finesse, d'élégance et de clarté qu'on lui voit aujourd'hui. Chunche s'occupa de faire traduire les chefs-d'œuvre de la littérature chinoise. Kang He établit une académie de savants également versés dans le chinois et dans le tartare. On s'y occupait avec ardeur et persévérance de la traduction des livres classiques et historiques et de la rédaction de plusieurs dictionnaires. Pour exprimer des objets nouveaux et une foule de conceptions qui jusqu'alors avaient été inconnues des Mandchous, il fallut inventer des expressions empruntées pour la plupart des Chinois, mais que l'on cherchait à accommoder par de légères altérations au génie de l'idiome tartare. Ce procédé tendant à faire disparaître insensiblement l'originalité de la langue mandchoue, l'empereur Qianlong y remédia. Il fit rédiger un dictionnaire dont tous les mots chinois furent bannis. On interrogea les vieillards et les savants les plus versés dans leur langue maternelle, et des récompenses furent proposées à quiconque découvrirait une ancienne expression hors d'usage et digne d'être consignée dans cet important ouvrage. Grâce à la sollicitude et au zèle éclairé des premiers souverains de la dynastie actuelle, il n'est maintenant aucun bon livre chinois qui n'ait été traduit en mandchou. Toutes ces traductions jouissent de la plus grande authenticité possible puisqu'elles ont été faites par de savantes académies, par ordre et sous les auspices de plusieurs empereurs, et que de plus elles ont été ensuite revues et corrigées par d'autres académies non moins instruites dont les membres savaient parfaitement la langue chinoise et l'idiome mandchou. La langue mandchou a reçu par ses travaux consciencieux un fondement solide. On pourra bien ne plus la parler, mais elle demeurera toujours comme langue savante et sera d'un puissant secours pour les philologues qui voudront faire des progrès dans les études asiatiques. Outre les nombreuses et fidèles traductions des meilleurs livres chinois, on a encore en mandchou les principaux ouvrages de la littérature lamaïque, tibétaine et mongole. Ainsi, quelques années de travail suffiraient à un homme appliqué pour la mettre en état d'étudier avec fruit les monuments littéraires les plus précieux qu'on puisse rencontrer en Asie. La langue mandchoue est belle, harmonieuse, mais surtout d'une admirable clarté. L'étude en sera agréable et facile, surtout depuis la publication des éléments de la grammaire mandchoue par Conon de Lagablens. Ce savant orientaliste a exposé avec une heureuse lucidité le mécanisme et les règles de la langue. Son excellent ouvrage ne peut manquer d'être d'un grand secours pour tous ceux qui voudront se livrer à l'étude d'une langue qui menace de s'éteindre dans le pays même où elle a pris naissance, mais que la France conservera au monde savant. M. Conon de Lagablens dit dans la préface de sa grammaire « J'ai choisi la langue française pour la rédaction de mon livre parce que la France a été jusqu'à présent le seul pays où l'on a cultivé le mandchou. De sorte qu'il me paraît indispensable pour tous ceux qui veulent se livrer à l'étude de cet idiome de comprendre aussi la langue française comme celle dans laquelle sont écrits tous les livres qui se rapportent à cette littérature. Pendant que les missionnaires français enrichissaient leur patrie des trésors littéraires qu'ils avaient rencontrés dans ces pays lointains, ils ne cessaient de répandre en même temps les lumières du christianisme parmi ces peuples idolâtres, dont la religion n'est qu'un monstrueux assemblage de doctrines et de pratiques empruntées tout à la fois à Lao Tzu, à Confucius et à Bouddha. On sait que dans les premiers temps de la dynastie actuelle, les missionnaires s'étaient acquis par leur talent un grand crédit à la cour. Ils accompagnaient toujours les empereurs, dans les longs et fréquents voyages qu'ils faisaient à cette époque dans les terres de leur ancien empire. Ces zélés prédicateurs de l'Évangile ne manquaient jamais de profiter de la protection et de l'influence dont ils jouissaient pour répandre partout sur leur route la semence de la vraie doctrine. Telle fut la première origine de l'introduction du christianisme en Mandchourie. On ne compta d'abord que peu de néophytes, mais leur nombre augmenta sensiblement dans la suite par l'émigration des Chinois, où se trouvaient toujours quelques familles chrétiennes. Ces missions ont fait partie du diocèse de Pékin jusqu'à ces dernières années. Monsieur l'évêque de Nankin, administrateur du diocèse de Pékin, se voyant en termes de sa carrière, craignit que les commotions politiques, dont le Portugal, sa patrie, était alors le théâtre, ne permissent pas à l'Église portugaise d'envoyer un assez grand nombre d'ouvriers pour cultiver le vaste champ qui lui était confié. En conséquence, il exposa ses alarmes à la sacrée congrégation de Propaganda Fide et la supplie avec instance de prendre sous sa sollicitude des moissons déjà mûres, mais qui risquaient de périr, faute d'ouvriers qui vinssent les recueillir. La sacrée congrégation, touchée des inquiétudes de ce vénérable et zélé vieillard, parmi les mesures qu'elle prit pour subvenir aux besoins de ses importantes missions, démembra la Mandchourie du diocèse de Pékin et l'érigea en vicariat apostolique qui fut confié à la Société des missions étrangères. Mgr Vérol, évêque de Colombie, fut mis à la tête de ce nouveau vicariat. Il ne fallait rien moins que la patience, le dévouement et toutes les vertus d'un apôtre pour administrer cette chrétienté. Les préjugés des néophytes, peu initiés aux règles de la discipline ecclésiastique, étaient pour Mgr Vérol des obstacles plus difficiles à vaincre que l'endurcissement même des païens, mais son expérience et sa sagesse eurent bientôt triomphé de toutes les difficultés. La mission a repris une nouvelle forme, et le nombre des chrétiens s'accroît chaque année. Tout fait espérer que le vicariat apostolique de Mandchourie ne manquera pas de devenir l'une des plus florissantes missions de l'Asie. La Mandchourie est bornée au nord par la Sibérie, au midi par le golfe Fouhai et la Corée, à l'orient par la mer du Japon, et à l'Occident par la Dorée russe et la Mongolie. Mukden, en chinois Cheyan, est la ville la plus importante de la Mandchourie et doit être considérée comme la seconde capitale de l'Empire chinois. L'empereur y a un palais et des tribunaux sur le modèle de ceux qui sont à Pékin. Mukden est une grande et belle ville, entourée de remparts épais et élevés. Les rues sont larges, régulières, moins sales et moins tumultueuses que celles de Pékin. Un grand quartier est uniquement habité par les princes de la ceinture jaune, c'est-à-dire par les membres de la famille impériale. Ils sont sous la surveillance d'un grand mandarin qui est chargé d'examiner leur conduite et de corriger les abus qui s'élèvent parmi eux. Ceux qui s'emportent trop loin au-delà des règles qui leur sont prescrites sont traduits devant le tribunal de ce magistrat suprême qui a droit de prononcer contre eux un jugement sans appel. Après Mukden, les villes les plus renommées sont Girin, entourée de hautes palissades en pieux, et Ningguta, berceau de la famille impériale régnante. Laoyan, Kaecheou et Kincheou sont remarquables par le grand commerce que la proximité de la mer y entretient. La Mandchourie, arrosée d'un grand nombre de fleuves et de rivières, est un pays naturellement fertile. Depuis que la culture est entre les mains des Chinois, le sol s'est enrichi d'un grand nombre de produits venus de l'intérieur. Dans la partie méridionale, on cultive avec succès le riz sec, ou qui n'a pas besoin d'inondation, et le riz impérial découvert par l'empereur Kang He. Ces deux espèces de riz prospéreraient certainement en France. On y fait aussi d'abondantes récoltes de petits millets, de kaoliang ou millet des Indes, olku sorghum, dont on distille une excellente eau de vie, de sésame, de lin, de chanvre et de tabac, le meilleur de tout l'Empire chinois. On cultive surtout, dans cette partie de la Mandchourie, le cotonnier à tiges herbacées. Il fournit du coton avec une abondance extraordinaire. Un méou, ou 15 pieds carrés environ, en donne ordinairement jusqu'à 2000 livres. Les fruits du cotonnier croissent en forme de gousse ou de coque et atteignent la grosseur d'une noix. Cette coque s'ouvre à mesure qu'elle mûrit, se divise en trois parties et met à nu trois ou quatre petites houppes de coton qui contiennent les graines. Pour séparer la graine, on se sert d'une espèce d'arc bien tendu dont on fait vibrer la corde sur les petites pelotes de coton. Après avoir réservé les semences pour l'année suivante, le restant des graines est employé à faire une huile que l'on pourrait comparer pour sa qualité à celle du lin. La partie haute de la Mandchourie est trop froide pour permettre la culture du cotonnier, mais elle en est dédommagée par ses abondantes récoltes de blé. Outre ses productions, qui sont communes à la Chine, la Mandchourie en possède trois qui lui sont particulières. L'Orient de la barrière de pieux, dit un proverbe, produit trois trésors, Sanpao en chinois. Ce sont le ginseng, la peau de zibeline et l'herbe de houla. La première de ces productions est connue depuis longtemps en Europe. Aussi n'avons-nous pu nous expliquer qu'une académie savante ait osé, il y a quelques années, élever des doutes sur l'existence de cette plante et demander sérieusement aux missionnaires si on ne devait pas la mettre au nombre des êtres fabuleux. Le ginseng est peut-être la branche de commerce la plus considérable de la Mandchourie, et il n'est pas de petite pharmacie en Chine où on en trouve au moins quelques racines. La racine du ginseng est pivotante, fusiforme et très raboteuse. Rarement elle atteint la grosseur du petit doigt, et sa longueur varie de 2 à 3 pouces. Quand elle a subi la préparation convenable, elle est d'un blanc transparent, quelquefois légèrement coloré de rouge ou de jaune. Rien ne nous a paru mieux ressembler à cette racine que les petits rameaux de stalactites. Les Chinois disent des merveilles du ginseng. Quoiqu'il y ait beaucoup à rabattre sur les étonnantes propriétés qu'on lui attribue, on ne peut s'empêcher d'avouer que c'est un tonique qui agit avec succès sur l'organisation des Chinois. Les vieillards et les personnes faibles s'en servent pour combattre leur état d'atonie et de prostration. Les médecins chinois disent assez communément que l'usage du ginseng, à cause de la grande chaleur qu'il excite dans le sang, serait plus nuisible qu'utile aux Européens, qui jouissent d'eux-mêmes d'un tempérament très chaud. Quoi qu'il en soit de ce spécifique si prôné par les Chinois, et quelquefois si ridiculisé par les Européens, il est d'une cherté étonnante. Une once se vend jusqu'à 10 ou 15 tals d'argent. Ceux qui ont eu occasion d'étudier le caractère des Chinois ne font pas difficulté de penser que cette cherté même ne contribue pas peu à donner tant de célébrité au ginseng. Les riches et les mandarins ne l'estiment tant, peut-être, que parce qu'il n'est pas à la portée du pauvre. Il en est beaucoup certainement qui n'en font usage que par ostentation et pour acquérir le frivole renom de faire de grosses dépenses. La Corée produit du ginseng, on le nomme kaoliseng, mais il est d'une qualité bien inférieure à celui qu'on recueille en Mandchourie. Le second trésor de la Tartarie orientale est la peau de zibeline. Elle coûte aux chasseurs des dangers et des fatigues incroyables. Aussi est-elle d'un prix excessif et destinée au seul usage des princes et des grands dignitaires de l'Empire. Il n'en est pas ainsi de l'herbe de houla. Ce troisième trésor de la Mandchourie est au contraire à la portée des plus pauvres. Le houla est une espèce de chaussure faite avec du cuir de bœuf. Quand on la garnit d'une certaine qualité d'herbe qui croît seulement en Mandchourie et qu'on nomme herbe de houla, houla tsao, on éprouve aux pieds une chaleur douce et bienfaisante même pendant le temps des plus grandes froidures. Cette herbe de houla se vend à vil prix et c'est sans contredit par cet endroit qu'elle mérite véritablement le nom qu'on lui a donné. Pendant que les deux autres trésors vont entretenir l'orgueil et le luxe des grands, celui-ci réchauffe les pieds du pauvre et du voyageur auquel l'indigence interdit les bottes fourrées et les chaussures élégantes. Comme nous l'avons dit plus haut, les Tartares mandchous ont presque totalement abdiqué leurs mœurs pour adopter celles des Chinois. Cependant, au milieu de cette transformation de leur caractère primitif, ils ont toujours conservé une grande prédilection pour la chasse, les courses à cheval et le tir à l'arc. Dans tous les temps, ils ont attaché une importance étonnante à ces divers exercices. Et pour s'en convaincre, il n'est besoin que de parcourir un dictionnaire de la langue mandchoue. Tout ce qui a rapport à ces exercices est exprimé par des mots propres, sans qu'on ait jamais besoin d'avoir recours à des circonlocutions. Il y a des noms particuliers, non seulement pour les différentes couleurs du cheval, pour son âge et ses qualités, mais encore pour tous ses mouvements. Il en est de même pour tout ce qui regarde la chasse et le tir à l'arc. Les Mandchous d'aujourd'hui sont encore d'excellents archers. On parle surtout beaucoup de l'habileté de ceux qui appartiennent à la tribu des Solons. Dans toutes les stations militaires, l'exercice de l'arc se fait à des jours réglés en présence des mandarins et du peuple. Trois mannequins en paille, de la hauteur d'un homme, sont disposés en ligne droite à 20 ou 30 pas l'un de l'autre. Le cavalier se place sur une ligne parallèle, distante de la première d'environ 15 pas. Son arc est bandé et la flèche prête à partir. Dès que le signal est donné, il pousse son cheval au grand galop et décoche une flèche sur le premier but. Sans s'arrêter, il retire une seconde flèche du carquois, bande l'arc de nouveau et lance la flèche contre le second mannequin. Puis il fait ainsi de la même manière une troisième fois sur le troisième mannequin. Pendant ce temps, le cheval va toujours ventre à terre, suivant la ligne tracée, de sorte qu'il faut se tenir toujours ferme sur les étriers et manœuvrer avec assez de promptitude pour ne pas se trouver trop éloigné du but qu'on veut frapper. Du premier mannequin au second, l'archer a beau se hâter pour prendre sa flèche du carquois et bander l'arc. Il dépasse ordinairement le but et est obligé de tirer un peu en arrière. Au troisième coup, le but étant très loin, il doit décocher la flèche tout à fait derrière lui à la manière des Parthes. Pour être réputé bon archer, il faut ficher une flèche dans chaque mannequin. Savoir décocher une flèche, dit un auteur mandchou, est la première et la plus importante science d'un tartare. Quoique la chose paraisse facile, les succès sont pourtant très rares. Combien qui s'exercent jour et nuit, combien qui dorment l'arc entre les bras, et cependant, où sont ceux qui se sont rendus fameux? Les noms proclamés dans les concours sont-ils nombreux? Ayez le corps droit et ferme. Évitez les postures vicieuses. Que vos épaules soient d'une immobilité inébranlable. Enfin, fixez chaque flèche dans son but et vous pourrez vous réputer habile. Le lendemain de notre arrivée à la ville militaire de Kukuot, nous en partîmes pour nous rendre à la ville marchande. Nous avions le cœur péniblement affecté de nous être trouvés au sein d'une ville mandchoue et de n'avoir entendu parler constamment que la langue chinoise. Nous ne pouvions nous faire à l'idée d'un peuple apostat de sa nationalité, d'un peuple conquérant que rien ne distingue maintenant du peuple conquis, si ce n'est peut-être un peu moins d'industrie et un peu plus de vanité. Quand ce lama tibétain promit au chef tartare la conquête de la Chine et lui prédit qu'il serait bientôt assis sur le trône de Pékin, il lui eut parlé plus vrai, s'il lui dit que son peuple tout entier, avec ses mœurs, son langage et son pays, allait s'engouffrer pour jamais dans l'empire chinois. Qu'une révolution jette à bas la dynastie actuelle, et les Mandchous seront obligés de se fondre dans l'empire. L'entrée de leur propre pays, entièrement occupé par les Chinois, leur sera même interdite. À propos d'une carte géographique de la Mandchourie, dressée par les pères jésuites, d'après l'ordre de l'empereur Kang He, le père Duhald dit qu'on s'est abstenu d'écrire des noms chinois sur cette carte, et il en donne la raison suivante. De quelle utilité serait-il à un voyageur qui parcourait la Mandchourie de savoir, par exemple, que le fleuve Sakhalien Oula est appelé par les Chinois Ilongqiang, puisque ce n'est pas avec eux qu'il a à traiter et que les Tartares, dont il a besoin, n'ont peut-être jamais entendu ce nom chinois. Cette observation pouvait être juste du temps de Kang He. Mais aujourd'hui, il faudrait évidemment prendre le contre-pied de ce qu'elle dit, car en parcourant la Mandchourie, c'est toujours avec les Chinois qu'on a à traiter, et c'est toujours du Heilongjiang qu'on entend parler, et presque jamais du Sakhalien Oula.